السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، en cette soirée du 19 du mois de Rabi al-Thani de l'an 1437 de l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 28 janvier 2016, nous entrons dans le 36e cours des leçons importantes pour toute la communauté de l'aimable Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ibaz, qu'Allah le récompense. Nous sommes toujours à la fin de la 17e leçon, la mise en garde contre l'association et les péchés majeurs. Nous nous sommes arrêtés sur le faux témoignage. Et le faux témoignage est un crime. C'est un péché qui fait perdre les droits de leurs ayants droit et qui permet injustement à un individu ayant fait pratiquer ce faux témoignage d'user des biens d'autrui de façon injuste. Combien de gens ont été tués à cause de faux témoignages? Combien de gens ont été offensés? Ainsi, celui qui pratique le faux témoignage est injuste, premièrement, parce que c'est un mensonge, et c'est basé sur le mensonge et la calomnie. Deuxièmement, il est injuste envers la personne sur laquelle il a effectué ce faux témoignage, car il lui a fait perdre son droit. Il est injuste envers la personne pour laquelle il a fait ce faux témoignage, car il lui a donné un droit qu'elle ne mérite pas. Il est injuste lorsqu'il s'agit de biens, car avec le faux témoignage, il va user injustement des biens d'autrui, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit rapporté par al-Bukhari Muslim, d'après Abu Bakr radiyallahu anhu, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. C'est-à-dire, votre sang, vos biens, votre honneur, toutes ces choses vous sont sacrées. Le faux témoignage est donc un péché duquel beaucoup de maux vont découler. Parmi les péchés majeurs cités par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le serment mensonger, le fait de jurer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité la personne ment, wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le récit rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Dharr radiyallahu anhu, thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah. Trois personnes auxquelles Allah ne parlera pas le jour de la résurrection. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ. Il ne les regardera pas. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Ni ne les purifiera. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et ils auront un châtiment douloureux. Il cita parmi celles-ci, أَلْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. Celui qui écoule sa marchandise en mentant quand il jure. Il jure en mentant dans le but de vendre sa marchandise. Et c'est une chose que l'on voit énormément, malheureusement, chez les commerçants qui n'hésitent pas, par amour des biens, amour de l'argent, à jurer par le nom d'Allah en qualifiant leurs marchandises par des qualités que cette marchandise en réalité n'a pas, comme le fait de jurer que ce n'est pas de la contrefaçon alors que c'est faux, le fait de jurer que c'est de la bonne qualité alors que c'est de la très mauvaise qualité, et toute autre chose en ce sens. Parmi les péchés majeurs, Ida ul-jar, nuire aux voisins. Vous avez vu parmi les bons comportements, le fait de faire preuve de bonté envers le voisin. Et être nuisible aux voisins est un des péchés destructeurs également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Il fut dit, mais qui donc, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit alors, celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses nuisances. Et quand le prophète alayhi salatu wa sallam dit, par Allah, il n'est pas croyant, c'est-à-dire, il n'est pas croyant complètement. Il n'a pas atteint la foi, le niveau de foi complet. Sa foi est défaillante à cause de ce péché qu'il commet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant dans le sens où il est mécréant. Ce n'est pas ça qui est voulu, bien sûr. Également, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « il n'est pas croyant », c'est donc une menace. Et comme c'est une menace, vous avez compris que c'est un péché majeur. Puis, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit « le fait d'être injuste, le fait d'opprimer les gens, que ce soit en faisant couler leur sang, en pillant les biens ou en portant atteinte à leur honneur. Car comme dans le hadith que vous avez entendu, le prophète alayhi salat wa salam a dit « votre sang, vos biens, votre honneur, toutes ces choses-là vous sont sacrées. » Puis il continue et dit « ka hurmati yawmikum hadha, fi baladikum hadha, fi shahrikum hadha. » Comme est sacré ce jour-ci, comme est sacré ce village, et comme est sacré ce mois. Le prophète alayhi salat wa salam a dit ces paroles alors qu'il était en train d'accomplir le pèlerinage d'adieu sallallahu alayhi wa sallam, et il était donc à Mecca, à Arafat, un lieu sacré, pendant un mois sacré, et également dans un endroit qui est sacré. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, quelqu'un lui a envoyé un courrier lui disant « Uktub li bil ilmi kulli » « Fais-moi un écrit réunissant toute la science. » Al-Sheikh Abdurazak al-Badr dit « Comment l'un d'entre vous aurait-il pu répondre à une telle demande, à une telle requête ?» On lui demande de lui rédiger un écrit ou de rédiger un écrit qui réunit toute la science. Ce n'est pas possible. Mais regardez la science de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, qui a réuni dans un écrit des choses essentielles et très importantes. Il dit dans cet écrit « Inna al-ilma kathir » « La science est vaste. »« Walakin » إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل. La science est vaste, mais si tu es en mesure de rencontrer Allah avec le dos léger du sang des gens, c'est-à-dire tu rencontres Allah et tu n'as pas le péché de l'effusion du sang des gens sur ton dos à porter. Tu n'as pas fait couler le sang des gens. Khamis al-batni min amwalihim. Le ventre vide de leurs biens. Tu n'as pas mangé les biens d'autrui. Kaf al-lisani an a'radihim. Avec une main qui s'est abstenue, avec une langue qui s'est abstenue de porter atteinte à leur honneur. Laziman li amri jama'atihim. Accroché à leur groupe. Faf'al, agis ainsi. Parmi les péchés majeurs cités par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le fait de boire de l'alcool. Et en réalité, boire de l'alcool ou consommer tout produit enivrant qui fait perdre la raison, comme les drogues et toute autre chose en ce sens. Et l'alcool, le vin, est la mère des maux, car l'individu qui s'adonne à ces boissons, wal'iyadu billah, va perdre la raison. Et cette perte de raison va engendrer de très nombreux maux. Combien de gens ont été tués, ont pillé à cause de l'alcool? Combien de gens ont violé à cause de l'alcool? Combien de gens ont menti, trahi, rompu les liens? Combien de gens ont porté atteinte à leurs voisins? Et toutes choses dans ce genre. Et ceci à cause de l'alcool. L'alcool est grave. Il y a également parmi les péchés majeurs, jouer au jeu de hasard. Jouer au jeu de hasard est un interdit chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci car la personne va perdre énormément d'argent en jouant au jeu de hasard. Wal'iyadhu billah. Ou alors va gagner énormément d'argent. Dans le cas où elle perd son argent, cette personne aura à rendre des comptes à Allah tabaraka wa ta'ala sur ce gâchis, alors que beaucoup de gens étaient dans le besoin. Et dans le cas où elle a amassé et gagné de l'argent suite au jeu de hasard, cela équivaudra alors à la personne qui a mangé les biens injustement, car tu n'as pas le droit de gagner de l'argent de cette façon. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 90 de Sourate Al-Ma'ida, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Le vin, les jeux de hasard. Puis il a cité d'autres choses comme le tirage au sort que il faisait à l'époque pour savoir s'il voyageait ou non. Le peuple de Quraysh, رجس من عمل الشيطان, est une abomination, un acte du diable. Parmi les péchés majeurs, il y a al-ghiba, la médisance. Et la médisance, c'est le fait de mentionner ton frère en disant quelque chose qu'il réprouve. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si ce que tu dis de lui est véritable et effectif, mais si lui le réprouve et n'aime pas que tu le dises, alors ceci est de la médisance. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, et ne médisez pas les uns les autres. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. L'un d'entre vous aimerait-il manger la viande de son frère mort? Vous détesteriez cela. Allah tabaraka wa ta'ala a fait ressembler la victime de la médisance à un cadavre et l'acteur de la médisance à quelqu'un qui mange de ce cadavre, pour montrer que c'est quelque chose d'horrible. Et en même temps, celui qui mange un cadavre, le cadavre ne peut pas se défendre. De même, la personne qui est victime de médisance, étant donné qu'elle est ignorante, ne peut pas se défendre. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 58, والذين يؤذون المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait auront à supporter une calomnie et un immense péché. Ainsi le musulman a l'obligation de prendre garde à nuire à ses frères, que ce soit par la calomnie et même par la médisance, que ce soit par la médisance et même par la calomnie dont nous allons parler, incha'Allah ta'ala. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari a rapporté dans son écrit intitulé « Al-Adab al-Mufrad » d'après Aisha radiyallahu anha, qu'il fut dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ya Rasulallah, inna fulanatan taqumul layl, wa tasumul nahar, wa taf'alu, wa tassaddaq, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ô messager d'Allah, il y a une femme qui prie la nuit, jeûne le jour, elle agit, elle œuvre en bien, elle dépense des aumônes, mais par sa langue, elle nuit à ses voisins. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la khayra fiha, hiya min ahli an-nar. Il n'y a aucun bien en cette femme, elle fait partie des habitants du feu. وقيل له وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. Il fut dit au prophète عليه الصلاة والسلام, il y a une autre femme qui prie ses cinq prières prescrites et donne des aumônes, mais elle ne nuit pas à qui, elle ne nuit à personne. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, هي من أهل الجنة, elle fait partie des habitants du paradis. Ainsi, porter atteinte aux musulmans par la langue, que ce soit la médisance, la calomnie, les prendre à la dérision, se moquer d'eux, toutes ces choses-là font partie des péchés majeurs. et la calomnie ou alors le colportage, c'est le fait d'écouter d'une personne A quelque chose qu'elle a dit au sujet d'une personne B, puis revenir vers cette personne B et lui faire part de ce que A a dit sur elle, puis reprendre la personne, la parole de la personne A et revenir à B et ainsi de suite. Ceci est interdit. D'ailleurs, un des pieux prédécesseurs, le dénommé Yahya ibn Abi Kathir al-Yamami, rahimahullah, a dit cette parole: Yufsidu an-nammamu fi sa'atin ma la yufsiduhu as-sahiru fi shahr. Celui qui commet le colportage va pervertir en une heure ce que le sorcier n'arrive pas à pervertir en un mois. La ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yadkhulu al-jannata qattat, wal-qattat huwa an-nammam. N'entrera pas au paradis celui qui fait le colportage. Et le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit: ainsi que d'autres péchés qu'Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Il fait allusion au fait que la liste des péchés qu'il a cités, les péchés majeurs, n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive. Mais il y en a bien plus. Comme vous l'avez entendu dans un cours passé, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit: Hiya ila sab'ina aqrab. Ils sont plus proches de 70. Et Cheikh Abd al-Razzaq qui dit qu'en réalité, ce n'est pas pour restreindre que le Cheikh Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit qu'ils sont au nombre de 70. Et ainsi s'achève la 17e leçon, walhamdulillah. Nous entrons enfin dans la leçon 18, la dernière leçon de cet écrit. Elle sera un peu longue puisque le sujet a besoin de beaucoup de détails. La préparation du mort, la prière funéraire et l'enterrement. Tajhizul mayyit wa salatu alayhi wa dafnu. C'est donc la 18e leçon. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah va nous donner les détails de cette leçon. Voici les détails de cette leçon. Premièrement, faire répéter l'attestation La ilaha illallah à un mourant. Il est légiféré de faire répéter La ilaha illallah au mourant conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Laqinu mawtakum La ilaha illallah, rawahu Muslim. Faites répéter La ilaha illallah à vos morts. Le récit est rapporté par l'imam Muslim. Quand il dit à vos morts, c'est-à-dire aux mourants, ceux qui agonisent et dont les signes d'une mort proche sont percevables. Deuxièmement, lorsque l'on est assuré de sa mort, on lui ferme les yeux et on lui serre les mâchoires conformément à ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il est obligatoire de laver le mort musulman, sauf s'il est mort en plein champ de bataille. En effet, le martyr ne doit pas être lavé et on ne doit pas prier sur lui. On l'enterre dans ses habits, cela conformément aux actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. C'est donc la dernière leçon, la leçon 18, que le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a évoqué ici, et il va citer tout ce qui est en rapport avec la préparation du mort, avec son lavage, son enterrement et toutes ces questions qui sont très 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 importantes et que le musulman doit apprendre. Le musulman ne doit pas rester dans l'ignorance. Vous n'êtes pas sans savoir que nous allons tous mourir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 185 de Sourate Ali Imran: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Le mort a des jugements qui nous ont été enseignés par la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons savoir comment prendre soin de lui, comment le préparer, comment le laver, comment le vêtir du linceul, prier sur lui, comment invoquer sur lui ce qu'il faut dire, comment l'enterrer. Toutes ces immenses règles et très importantes sont citées dans les textes. Les proches du mort doivent avoir un minimum de connaissances nécessaires à la mise en pratique de ces règles islamiques. Car lorsque l'on est ignorant de ces règles, et sachez d'ailleurs qu'un des domaines où il y a le plus d'innovations religieuses, c'est bien le domaine des funérailles, c'est bien le domaine de l'enterrement, c'est bien le domaine de la préparation du mort. Je vous invite à vous procurer un écrit dans ce sujet très important du Cheikh Mohammed ibn Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah rahmatan wasi'a, intitulé Ahkam al-Janaiz, les règles des funéraires. Le livre a été traduit en français, où il cite les innovations relatives à la préparation du mort et toutes ces choses-là. Et donc le musulman doit apprendre afin de ne pas innover. Car plus tu ignores, plus tu commets des choses, plus tu es susceptible de commettre des choses qu'Allah n'a pas légiféré, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens ont innové et font des choses qui n'ont aucun fondement. Ils ne font que suivre leurs ancêtres, wal'iyadu billah. Au point où le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, raconte qu'un jour un homme ignorant lui a raconté qu'il a prié en compagnie d'un groupe de personnes sur un défunt de raka'a, comme on prie dans la mosquée. Alors que dans la prière pour le mort, il n'y a pas d'inclinaison rukur, ni de prosternation sujoud. Ceci à cause de l'ignorance de ces gens. Et c'est un droit que le mort a, que l'on prie sur lui de la bonne manière, et qu'il soit lavé de la bonne manière. La première chose qui a été citée par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le fait de faire répéter au mourant. Le mourant, c'est celui qui est à l'agonie, et les signes de la mort proche apparaissent en lui. Ça peut être quelqu'un qui est sur le lit d'hôpital, ou alors quelqu'un qui est chez lui. Les signes apparaissent montrant qu'il est susceptible de mourir. Il est bon de lui faire dire la ilaha illallah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le récit: Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quiconque aura pour dernière parole dans ce bas monde la ilaha illallah entrera au paradis. Al-Sheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit: il faut lui faire répéter ses paroles, mais avec douceur. Il ne faut pas le brusquer, ni le stresser, de peur qu'il ne prononce pas ses paroles. Il faut prononcer la parole « La ilaha illallah » à côté de lui et attendre un peu, puis lui faire répéter et ainsi de suite. Deuxièmement, à partir du moment où on est sûr que la personne est bien morte, on lui ferme les yeux et on lui serre les mâchoires, conformément à ce qui est rapporté dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. L'imam muslim rapporte, d'après Ummu Salama, radiyallahu anha, elle dit, « Dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Abi Salama, wa qad shaqqa basaruhu, fa'aghmadahu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu auprès de Abu Salama, c'est-à-dire au moment de l'agonie, et son regard s'est figé. Il s'est mis à lui fermer les yeux. Pourquoi? Car lorsque l'âme se sépare du corps, si les yeux sont ouverts à ce moment-là, les yeux regardent l'âme et la voient sortir. À ce moment-là, il faut lui fermer les yeux. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il faut aussi lui serrer les mâchoires. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de lui fermer sa bouche et de ne pas la laisser ouverte, comme en l'attachant, en passant quelque chose en dessous de sa mâchoire, puis on entoure la tête pour ne pas qu'il ouvre la bouche, afin que sa bouche reste fermée. Certains ont dit, afin que l'eau n'entre pas dans la bouche quand on va procéder à son lavage, et aussi pour ne pas que des impuretés pénètrent dans sa bouche. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz rapporte qu'il est obligatoire de laver le mort. Certes, c'est une obligation, c'est un droit que le défunt a, et nous allons en voir prochainement les détails, incha'Allah ta'ala. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.